Chers fidèles, à l'occasion de cette fête paroissiale, nous avons la possibilité d'aborder cette grâce qui est souvent méconnue, parfois crainte, et pourtant on pourrait presque lui appliquer ce que nous voyons dans le monde bien fréquemment. Si nous regardons le monde, l'année se passe grosso modo pour les gens du monde à préparer leurs vacances. On imagine une magnifique île bien isolée, splendide, avec un ciel merveilleux, une plage merveilleuse de sable fin, retirée du monde, éloignée de tout. C'est le rêve du monde, rêve de vacances, passées à s'éloigner du travail, s'éloigner des soucis, s'éloigner de tout ce qui grève trop nos vies, ici-bas, dans le train-train quotidien. Vous pensez bien que ce n'est pas le type de vacances que nous pensons vous offrir. Et si nous voulons parler d'une grâce, c'est bien que c'est une réalité surnaturelle, des vacances surnaturelles. Une retraite, quoi. Une plage de temps, non pas de sable, mais une plage de temps, 5 jours. 5 jours passés loin du monde, une île, une sorte même d'oasis dans le désert, une île dans la mer, une île dans laquelle vous vous retrouvez seul avec Dieu. Seul avec Dieu, loin des soucis, loin des difficultés, loin du train-train quotidien, pour être là simplement à disposition de Dieu. Et c'est une grande, grande grâce. Souvent, comme on l'a déjà dit, souvent crainte parce qu'on se dit 5 jours, je n'aurai pas le temps de trouver 5 jours. C'est trop long, c'est difficile. Et puis, la retraite est parfois difficile, finalement. On la craint. Or, très fréquemment, toutes les personnes, même pratiquement, qui viennent à une retraite, si le début est difficile, car il faut plonger dans le silence, s'éloigner de tout, la fin est toujours joyeuse, la fin est toujours remplie de cette grâce que le bon Dieu a fait redécouvrir, ces grâces que le bon Dieu a données à l'âme qui s'est plongée dans la retraite. Alors, essayons de regarder ce que sont ces retraites que nous essayons de prêcher, ici à Ainay, pas très loin, ou au Pointet, enfin, que la fraternité met à votre disposition, parce que ce sont vraiment d'immenses bienfaits spirituels pour notre âme. Le premier bienfait, c'est de nous faire redécouvrir une réalité que le monde actuel est en train de tuer. Le monde n'accepte plus, ne veut plus entendre, si l'on peut parler ainsi, du silence. On ne veut plus entendre le silence. On veut l'écraser sous le bruit de tous les médias, partout, dans la rue, dans les magasins, dans les gares, dans les maisons, partout, on a ce bruit perpétuel qui fait que l'âme n'est jamais qu'à la surface d'elle-même. Elle est toujours à voguer sur la mer, mais elle ne va jamais à l'intérieur de la mer. Déjà, elle ne descend plus dans les eaux profondes. Elle n'est plus capable de s'arracher à la superficialité du monde. On dirait aujourd'hui qu'elle surfe sur les réalités de ce monde. Elle se laisse prendre par le courant du monde et elle se laisse emporter. Elle se laisse emporter vraiment au gré des vents, au gré des modes, au gré des nouveautés. Ça n'est pas cela que Dieu veut. Et le bienfait, un des grands bienfaits de la retraite, c'est de nous donner cette possibilité de sortir de ce monde. Même si l'on est catholique, même si l'on est dans la tradition, on a toujours, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, même sans parler des médias, on est accaparé par les enfants, il y a les petits dont il faut s'occuper, il y a les 1000 soucis de la vie quotidienne. Eh bien, la retraite nous donne cette grâce de nous en sortir et de ne rester que pour Dieu, de vivre 5 jours éloignés du monde, loin des soucis, près de Dieu. C'est une grâce immense, car le silence, vraiment, c'est une réalité, une denrée rare aujourd'hui. Et la possibilité d'avoir 5 jours de vie silencieuse, avec un cadre qui le permet, qui permet vraiment de méditer sur les réalités de notre vie surnaturelle, du but de notre vie, des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant cette qualité du silence, c'est une réalité merveilleuse. C'est vraiment quelque chose dont nous devrions avoir besoin. Oh, parfois, c'est impossible. Bien souvent, pour les mamans qui ont les enfants, c'est parfois quasiment impossible. C'est vrai, mais pour la plupart d'entre nous, à un moment donné ou l'autre de notre vie, c'est possible. Et dans ce cas-là, il faut saisir cette opportunité, car c'est une grâce immense. 5 jours pour s'immerger dans le silence de Dieu et reconnaître et redécouvrir la qualité du silence. Le silence profond, pas simplement se taire, pas simplement s'écarter quelques instants pour faire un petit peu de méditation, mais se rendre compte que finalement, le plus grand mystère dans notre vie, le mystère trinitaire, mais c'est un mystère de silence. L'éternité, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, il n'y a qu'une parole. Et encore cette parole, c'est dans le silence de l'éternité, c'est le Verbe, c'est une personne. Le Fils qui dit tout ce qu'est le Père, c'est tout. Avant même la création du monde, si l'on peut parler ainsi, avant que le temps ne fût, Dieu est. Mais c'est le silence éternel. Mais dans ce silence, il y a une densité de vie extraordinaire. Le Père se donne totalement au Fils, le Fils se donne totalement au Père, c'est le Saint-Esprit, l'amour trinitaire. C'est une réalité que Dieu a voulu nous donner. Mais s'il a voulu nous la communiquer, il veut aussi que les conditions soient réalisées pour nous la communiquer. Si Dieu est dans le silence de cette éternité, que ce silence est si dense qu'il y a 3 personnes divines, eh bien il nous faut nous-mêmes essayer de comprendre ce qu'est ce silence, car il est la condition pour pénétrer en Dieu. Et ça, la retraite, elle nous donne justement cette condition pour pénétrer en Dieu. Le silence n'est pas simplement à ce moment-là une privation de parole, ou d'imagination, ou de ces discussions intérieures qui arrivent si souvent en notre âme. Non, c'est pas simplement ça. Ça, c'est une privation. C'est quelque chose de négatif. Le silence, c'est une qualité de présence. C'est pas la même chose. Le silence, c'est cette qualité d'écoute de Dieu. Dieu vivant dans notre âme. Dieu est en nous. Nous sommes temple du Saint-Esprit. Dans la mesure où nous ne l'avons pas chassé par le péché mortel, Dieu habite en nous. Mais combien de fois dans le quotidien y pensons-nous? Combien de fois sommes-nous attentifs à cette présence? Combien de fois entendons-nous dans ce silence l'appel de Dieu qui nous dit qu'il a soif de notre âme, qui nous dit qu'il a soif de notre présence à lui? Si nous faisons le compte, je pense que nous aurons beaucoup des 10 doigts. Dans une journée, pour calculer nos retours vers Dieu. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Or, la retraite est là pour nous redire que le silence existe et que le silence devrait être notre vie. Un auteur, un chartreux, Don Guirand, dans les méditations qu'il fait sur la Sainte Famille, dit que l'atmosphère habituelle de la Sainte Famille, c'est le silence. Ça n'est pas la parole. On aurait pu s'imaginer que notre Seigneur parlait à la Vierge Marie des mystères trinitaires, qu'il a parlé à Saint Joseph de la vie divine. C'est de l'imagination. La qualité de vie de la Sainte Famille, c'est le silence, parce que ce silence est une imitation de la vie trinitaire. Et ceci dit, entre parenthèses, on voit souvent dans des familles, par exemple, qui ont cet appareil que l'on nomme la télévision, et des personnes qui l'ont mise dehors du foyer, tout à coup redécouvrent que le silence peut exister et que dans ce silence, il y a une nouvelle qualité de vie qui se réalise. On redécouvre que le bruit constant de la télévision ou trop fréquent de la télévision, de ces images souvent malheureusement pécamineuses, eh bien que dès lors que cela est hors de notre atmosphère, s'instaure une autre qualité, parce que le bruit s'en est allé. Or, la retraite, elle est là pour nous redire, nous avons besoin, même si nous ne le savons pas, nous avons besoin du silence. C'est une nécessité de notre âme. Notre âme, elle est faite pour le silence. Un jour, nous serons dans le silence de l'éternité à adorer Dieu. Ici-bas, nous sommes dans le temps, mais un jour, nous serons devant Dieu, dans ce silence éternel de la liturgie divine, de la liturgie du ciel, pour adorer la splendeur de Dieu. Eh bien, notre vie ici-bas doit être un commencement de cette qualité de silence. Or, cette qualité de silence, eh bien, la retraite nous apprend qu'elle est là pour nous faire plonger dans les mystères de notre vie. Les mystères de notre vie, voilà aussi quelque chose qu'il nous faut méditer profondément. Nous savons tout cela. Vous le savez, vous l'avez appris par le catéchisme, les enfants le savent. Mais l'important n'est pas de savoir. L'important, c'est de vivre de ce que l'on sait, de vivre de notre foi. Peu importe de connaître par cœur les mystères que saint Thomas d'Aquin énumère dans la Somme théologique. Si nous n'en vivons pas, ça ne sert à rien. Notre Seigneur l'a dit dans l'Évangile, il a dit des pharisiens, « Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. » Cela veut dire, en d'autres termes, les pharisiens connaissaient la loi, ils n'agissaient pas selon la loi. Ça ne sert à rien. Regardez encore cette magnifique épître de saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 13, lorsqu'il parle de la charité. « Si j'avais la foi à déplacer les montagnes, si j'avais, je connaissais toute la science des anges et tous les saints, si je donnais toutes mes richesses, ce sont des actions extraordinaires, ce sont des réalités splendides. Si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Parce que la charité, c'est la vie divine en nous. C'est cette vie qui correspond à la vie divine. C'est cet amour de Dieu qui nous pousse à vivre de la vertu, qui nous pousse à agir selon les commandements de Dieu et de l'Église. Or, la retraite nous replonge dans cela. Elle nous dit, attention, première chose. Premier principe, nous avons été créés par Dieu, c'est sûr. Nous le savons, nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes créés par Dieu, pour Dieu. Et cela, il faut l'avoir toujours devant les yeux. Du plus tendre âge, c'est le rôle des parents de dire aux enfants qui sont des créatures de Dieu, qu'ils doivent aimer Dieu, jusqu'à la vieillesse où on se rend compte qu'on approche du terme de la vie. C'est le premier, ce qu'on appelle les principes et fondements de la retraite. Nous sommes ici-bas sur la terre, mais nous avons à nous souvenir fréquemment que tout ce décor de la terre, ces réalités si belles que Dieu nous a créées pour nous, ne sont que des moyens d'aller à Dieu. C'est tout, des moyens. Ce pourquoi nous sommes créés, c'est Dieu. Tout doit concourir à nous conduire à Dieu. Or là, nous avons un travail jusqu'à la fin de notre vie. Car très souvent, les créatures sont là pour nous retirer, pour prendre justement en notre âme la place de Dieu. Nous le voyons dans le monde. Le sport actuel est une nouvelle religion qui s'accapare l'âme des jeunes particulièrement. Les enfants qui adorent pratiquement des stars. Nous voyons ces mouvements de foule qui sont une folie, une inversion totale. Le Christ est méconnu, par contre, les joueurs de football, les joueurs de basketball, que sais-je encore, de tous ces sports, on les connaît par cœur, on connaît leur vie, on connaît leur prouesse. Mais qui connaît la vie du Christ ? Qui pourrait dire les miracles du Christ, les énumérer, les paroles du Christ? Or, c'est ce qui compte dans notre vie. Le reste ne sert à rien. Le reste va disparaître. Le sport peut être une belle chose, mais dès lors qu'on pervertit le sens de ces réalités qui ne sont que des moyens, et que nous voyons tant d'enfants, tant de jeunes qui n'ont plus en tête que cela, ou même des personnes âgées, des adultes, qui ne vivent plus pratiquement que pour ce sport en particulier, c'est une folie. Ou pour le travail qui accapare l'âme de telle sorte qu'elle ne vit plus que pour le travail. C'est une folie. Or, la retraite, ces 5 jours, nous replonge dans la réalité de notre vie. C'est pas pour ici-bas. Nous sommes des pèlerins vers l'éternité. Il n'y a qu'un chemin pour aller à l'éternité, et ce chemin, c'est ce chemin qui conduit à Dieu. C'est Dieu, notre éternité. Or, dans ce chemin, justement, Dieu nous le redit dans la retraite, et sont les premières méditations, la première semaine, il nous dit, attention, nous avons beau être catholiques, nous sommes des traditionalistes. Ah, c'est magnifique. Label de qualité. Mais attention, notre Seigneur a voulu inscrire en livre, en lettres d'or dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, des paroles incroyables. C'est saint Paul qui nous le dit. Saint Paul qui nous dit ceci, « Je châtie mon corps et je le réduis en servitude. Pourquoi ? Afin qu'après vous avoir prêché, je ne sois pas moi-même condamné. » C'est saint Paul qui parle. Vous rendez-vous compte ? Je devrais dire, nous rendons-nous compte de ce que cela signifie. Saint Paul, cette colonne de l'Église, qui est capable de dire, Je réduis mon corps en servitude, je fais pénitence. Je suis obligé de faire pénitence, je suis obligé de faire attention à ma vie. Pourquoi ? Car après avoir parlé des mystères de Dieu, je suis capable de tomber. Or, toute l'histoire de l'Église nous le montre. Regardez les frontons des cathédrales. Vous avez le jugement dernier. Que se passe-t-il dans le jugement dernier ? Vous avez le ciel, vous avez le purgatoire, vous avez l'enfer. Regardez l'enfer. Il y a des tonsurés, il y a des évêques, il y a des moines qui sont en enfer. Il y a des fidèles, des enfants, des adultes. Attention. Alors la retraite est là pour nous redire notre fragilité. Nous sommes marqués par le péché originel, nous en avons été libérés par le baptême, mais nous sommes blessés. Que nous soyons traditionnalistes, fervents, nous sommes blessés. Nous sommes blessés profondément. Nous sommes faibles. Nous n'avons pas la connaissance de toutes choses. Nous avons de la difficulté dans l'effort. Tout cela nous cause de la peine, nous le voyons bien, nous devons aller nous confesser. Nous sommes faibles, oui. Mais que nous montre la retraite ensuite ? Elle ne nous laisse pas dans le péché. Elle nous fait descendre dans cette misère fondamentale de notre vie. Mais pour nous en faire sortir, la vie chrétienne, ça n'est pas seulement une lutte contre le péché. C'est beaucoup plus que cela, on l'a dit. Dieu, c'est Dieu. Dieu premier servi. Il faut enlever les obstacles, et c'est tout le but du début de la retraite, mais c'est ensuite pour faire grandir notre âme. Notre âme n'est pas à être obnubilée par toutes les difficultés, les tentations, les dangers du monde. L'apocalypse qui se rapproche, la fin du monde qui est bientôt là, peu nous importe. Ce qui nous importe, c'est Dieu, connu, aimé. Dieu dont nous vivons, Dieu vivifiant dans notre âme. Et c'est cela que nous donne la retraite. Ensuite, elle nous fait plonger, replonger grâce à ce silence, à cette qualité de silence, dans le mystère divin. La vie du Christ, tous les mystères de notre sainte religion, afin que, parce que nous avons pris ces 5 jours, nous ayons le temps de méditer, de nous arrêter, de regarder, de reprendre l'Évangile et de nous dire « j'avais oublié ». Combien de fois les retraitants disent « mais je savais, j'ai oublié, j'avais complètement oublié que c'était si beau les mystères du Christ ». Or, dans le train-train quotidien, dans la vie quotidienne, le travail, la famille, c'est tellement prenant qu'il n'y a plus ce temps qui est livré à Dieu pour approfondir ces mystères. La retraite est là pour ce grand bienfait, cette bouffée d'oxygène spirituel qui nous fait nous mettre en face du mystère et regarder, avoir le temps de regarder Dieu. C'est un bienfait immense qui peut valoir le salut d'une âme, qui peut changer une vie, qui peut transformer une vie. À la manière de saint Paul, saint Paul, il faut avouer, a eu cette grâce extraordinaire, c'est vraiment Dieu qui le frappe de plein fouet, et saint Paul qui s'exclame devant Dieu, « Qui êtes-vous ? » Mais c'est la question fondamentale de la retraite. « Qui êtes-vous, Seigneur ? » ?»« Qui êtes-vous, Seigneur ? » Le savons-nous suffisamment ? Or, toute la retraite est là pour honorer et dire ensuite, c'est le Christ roi, celui qui est né à Bethléem, qui a vécu à Nazareth, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, il est roi, il veut régner. Son règne, ça n'est pas simplement une idée, c'est quelque chose de très concret. Son règne, c'est aujourd'hui, dans mon âme, dans ma vie, dans mes actions, dans ma prière de matin jusqu'à la prière du soir. C'est ça son règne. Comment règne-t-il dans ma vie ? Eh bien, toute la retraite, elle est centrée pour voir justement comment ces mystères, nous les faisons nôtres. Mystères joyeux, douloureux, glorieux du Christ, ils nous appartiennent. Mais comment les appliquons-nous lorsque nous avons des joies ? Sommes-nous vraiment des âmes d'action de grâce ? Dans les difficultés, avons-nous ce premier réflexe de nous élever vers Dieu pour offrir, en union avec la croix, nos difficultés, nos souffrances ? C'est un apostolat immense, difficile, douloureux justement, mais si grand, parce que Dieu lui-même nous l'a montré. Mystère glorieux, nos souvenirs nous sommes faits pour Dieu. Toute la retraite est centrée sur cela, et tous ces mystères nous redisent, le Christ veut régner. Il veut être maître de notre âme. Il veut nous guider vers ce qu'il est lui-même. Et La retraite est calquée justement sur ces mystères pour nous les faire méditer, c'est sûr, mais pour nous dire, attention, ça ne suffit pas de les méditer, ça ne suffit pas de prendre du temps, ça ne suffit pas d'avoir cette qualité de silence, c'est très bien, c'est nécessaire, Mais tout cela, s'il n'y a pas des résolutions de vie qui sont prises, c'est du vent. C'est du vent. Il nous faut prendre des résolutions, ça veut dire il nous faut fortifier notre volonté. C'est un des grands bienfaits de la retraite. De nous mettre justement dans le silence face à Dieu. Nous sommes face à Dieu. Nous regardons notre vie comme en un livre ouvert devant Dieu. Nous n'avons rien à cacher, nous ne pouvons rien cacher. Nous ne devons rien cacher. Nous devons montrer à Dieu et voir en Dieu ce que nous sommes. Et il y a du travail. Mais ce travail, il nous faut le saisir à pleine main. Car nous avons tous les moyens, et c'est la redécouverte aussi de la retraite, de voir les moyens extraordinaires que Dieu nous donne pour nous transformer. Les sources de la grâce, les sacrements, surtout la messe et la pénitence. Mais le mariage pour les parents, qui revivifient cette grâce du mariage, dans les difficultés de la famille, que ce soit pour les enfants, l'éducation, les époux entre eux. Tout cela nous est redonné, nous repénétrons ces réalités, les sacrements, pour prendre des résolutions concrètes. Devant Dieu, dans le silence, nous regardons notre vie et qu'est-ce que j'ai à faire? C'est un des grands bienfaits de la retraite. Il faut avouer, bien chers fidèles, que souvent, dans le cours de l'année, nous avons la grâce de la confession. Et il faut désirer la confession fréquente, c'est important. Mais fréquemment, nous venons à la chapelle, nous nous préparons plus ou moins rapidement, nous prenons quelques résolutions. Mais il manque justement cette qualité de réflexion profonde pour voir vraiment quel est notre défaut dominant, quels sont les travers, quelles sont les attaches, quels sont nos péchés, entre guillemets, mignons, ceux que nous choyons, que nous n'attaquons pas suffisamment. La retraite nous met devant la lumière éternelle, elle nous dit, attention, là, il y a une attache, il faut la couper. Sainte Thérèse d'Avila nous dit, un petit oiseau qui soit relié à la terre par un crin, simplement, un petit fil de rien du tout, ou qu'il soit attaché par une grosse corde, il reste attaché. Il ne peut pas s'envoler. Or, la retraite est là pour nous dire, là, il faut couper. Il faut arracher de notre vie ces attaches. Ce sont peut-être des attaches lourdes qu'il faut couper absolument. Péché grave, par exemple, mortel, des mauvaises habitudes, il faut y aller. Ça peut être des attaches plus petites, il faut les couper, nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour vivre de Dieu. Or, les résolutions pratiques, nous devons les prendre en pleine lumière. Pour ce cas-là, que la retraite est vraiment un bienfait extraordinaire. Nous n'avons pas tout le reste, les soucis quotidiens, les difficultés, les appels d'un côté de l'autre. Nous sommes seuls devant Dieu. Nous sommes dans le silence. Et nous pouvons, en pleine conscience, en pleine connaissance de cause, regarder le livre de notre vie et nous dire, là, je dois attaquer. À l'aide du prêtre, des prêtres qui sont là et qui essayent avec nous-mêmes dans la retraite de nous dire, voilà, là, il faut attaquer. Il faut que vous preniez telle résolution. Et c'est un bienfait immense. Souvenons-nous toujours de l'Écriture. Notre Seigneur nous dit, la vérité vous rendra libre. Or, justement, la retraite est là pour faire la vérité sur notre âme. Et c'est le bienfait justement de ces résolutions. Elles nous montrent la vérité, nous sommes en face du miroir que Dieu nous montre, nous voyons vraiment notre visage, le vrai visage de notre vie, et nous voulons le changer. Un peu comme Véronique sur le calvaire, elle va vers le Christ qui avait le visage couvert de crachats, de sang coagulé. Elle essuie sa face. Elle a essuyé sa face et que se passe-t-il sur son linge? Elle a trouvé le visage du Christ. Eh bien, c'est ce que le Christ veut trouver en nous. Il veut que par la retraite, nous fassions la clarté sur notre visage. Que ces crachats, que ces péchés qui sont comme les crachats qui fouettaient le visage du Christ, nous les enlevions de notre âme. Et que nous recouvrions dans le plus profond de notre âme la vie divine. Nous sommes faits vraiment pour cette vie divine, ici-bas sur la terre. Alors, demandez bien cela, bien chers fidèles. Et n'hésitez pas à participer à une retraite. Nous avons encore cette année à Ainay de retraite. La retraite de dames est complète. Mais il y a encore une retraite pour les messieurs. Il y a encore de la place, chers messieurs, si vous avez le temps, bien sûr, et vous pouvez peut-être le prendre. Du 5 au 10 novembre à Ainay, il y a cette possibilité. Il y a bien sûr au Pointet, regardez les dates. Et n'hésitez pas à saisir cette occasion. Ce peut être vraiment une occasion rêvée pour remettre les choses devant Dieu, et peut-être pour changer totalement notre vie. Alors, supplions la Vierge Marie, notre Mère, la Mère de Dieu et la Mère des hommes, supplions-la de nous donner cette grâce, afin que, vivant de cette grâce, nous recouvrions dans notre âme la soif fondamentale de notre vie. Créés par Dieu, nous devons désirer Dieu toute notre vie pour nous perdre en quelque sorte dans cet océan sans rivage, comme disent les auteurs, de la bonté divine dans l'éternité. C'est cela à quoi nous sommes appelés. Alors prions tous ensemble la Vierge Marie pour toutes nos familles, pour tous les enfants, pour tous les parents, pour tous nos prêtres, pour tous nos religieux, afin que tous ensemble nous ravivions cette soif et surtout que nous en vivions, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, nous allons continuer cette journée paroissiale, récollection paroissiale, par quelques considérations qui sont de toujours. Aucune innovation, rien de neuf, vous le connaissez. Nous en avons déjà entendu parler à maintes reprises, mais c'est toujours bon de revenir à ces considérations parce que c'est toute notre vie qui en dépend. Vous avez vu le titre de cette petite conférence de cet après-midi, le combat spirituel. Nombreux ouvrages ont été écrits à ce sujet, bien évidemment, ce sont des livres de référence. Nous essaierons simplement de donner quelques petites touches pour raviver peut-être cet esprit combatif dans des temps qui le nécessitent, qui demandent cet esprit combatif. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, mais nous essaierons de le voir au cours de la conférence, nous ne pouvons pas aujourd'hui ne pas avoir cet esprit de combat. Peut-être connaissez-vous un peu l'histoire de saint Thomas d'Aquin, qui, lorsque jeune homme de grande famille, il avait décidé de se vouer à Dieu dans l'ordre des Dominicains et qu'il avait déjà commencé à partir vers le nord, quitter sa famille. Peut-être savez-vous que ses frères, qu'il aimait d'un amour simplement naturel, d'un amour mal compris, d'une jalousie familiale, eh bien, l'avait rattrapé et l'avait séquestré, tout simplement. C'était une époque un petit peu vive, où les moyens employés n'étaient pas nécessairement les nôtres, quoique. Mais enfin, ses chers frères l'avaient gardé prisonnier, lui, Thomas, le grand Thomas d'Aquin, l'avait gardé prisonnier dans un château de famille. Et pour essayer de le détourner de cette idée saugrenue de se consacrer à Dieu, dans l'ordre des Dominicains, il fallait que la famille prospère. Eh bien, ils avaient voulu le soumettre à une tentation machiavélique, une tentation misérable. Et le placide saint Thomas d'Aquin, qui depuis sa tendre enfance cherchait Dieu, souvenez-vous cette question que petit, à 5 ans, il posait au moine qui était chargé de son éducation, « Qui est Dieu ?» Alors chaque moine, « Qui est Dieu ? Qui est Dieu ?» Et il buvait les réponses, il s'en abreuvait. Eh bien, ce cher Thomas d'Aquin, pénétré de cette recherche, de cette soif de Dieu, ne va pas, bien évidemment, se laisser faire. Ses frères avaient pourvu pour cette tentation, pour le détourner de son dessein, de se consacrer à Dieu. Ils avaient demandé à une dame qui n'était pas brave de le tenter, tout simplement. Alors, ils l'avaient séquestré dans une chambre et voici qu'ils font venir cette dame. Dans la chambre, il y avait un âtre, un petit foyer avec un tison et du bois qui brûlait. Dès le moment où la dame est entrée, saint Thomas, avec un calme imperturbable qui égalait sa combativité définitive, s'en est allé vers le foyer, en a pris le tison et s'est approché de la brave dame avec le tison ardent en faisant un signe de croix. Vous comprenez bien que la brave dame s'en est allée assez rapidement. Esprit combatif merveilleux, on ne discute pas avec la tentation. Et nous voyons dans cet épisode de la vie de saint Thomas d'Aquin qui choisit Dieu plus que le péché, qui déteste le péché, qui a cet acte de force merveilleuse, pondéré de calme imperturbable, mais qui rend la force d'autant plus admirable, qui trace ce signe de croix de se faire rougir au feu. Je ne rentre pas en discussion avec tout ce qui vient du démon et tout ce qui tend à m'éloigner de Dieu. » Ses frères ont vite compris qu'il n'y avait plus rien à en tirer et que Thomas d'Aquin se consacrerait à Dieu, qu'il le veuille ou non. Et ce qui a donné ce trésor de l'Église, ce docteur commun de l'Église, Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, le prince de la philosophie, de la théologie, mais une âme pétrie d'amour de Dieu. Pensez à cet office du très saint sacrement qui est une merveille. On voit là l'âme d'un philosophe, d'un théologien qu'on aurait pu penser desséché par la logique imperturbable de la philosophie, mais qui au contraire laisse échapper d'une âme pénétrée de Dieu et dont Dieu pénètre tous les recoins, qui laisse échapper une poésie spirituelle, mystique, d'une grandeur inégalée. Adorote devote latens deitas. Quelques mots et tout est dit. On voit la splendeur à la fois de la pénétration intellectuelle et spirituelle de saint Thomas dans les mystères divins et la magnificence de l'expression de ce mystère. Pourquoi ? Parce que c'était un combatif, nul doute. C'était une âme de combat. Une âme de combat dans la paix intérieure, mais de combat, c'est-à-dire vraiment la force de la volonté livrée à Dieu. Nous avons cela dans de nombreuses mamans de saints, que ce soit saint Bernard, saint Jean Bosco, ces deux-là, dont la maman osait dire de manière extraordinaire, avec une fermeté exemplaire, « Je préférerais te voir mort à mes pieds que savoir que tu as commis un seul péché mortel. » Une maman qui dit ça. Un cœur de maman qui dit à son enfant « Je préférerais te voir mort à mes pieds plutôt que savoir que tu as commis un péché mortel. » Alors voyez, nous avons là vraiment cet esprit profond de combat qui a animé tant et tant d'âmes simples ou de saints, mais qui fait la chrétienté. Du reste, il nous suffit de regarder un petit peu tout l'ensemble de ce qui fait l'histoire de l'Église. Regardez Saint Pie V, les Pentes, Notre-Dame du Rosaire, ces fêtes que l'on a célébrées il n'y a pas si longtemps, Notre-Dame du Rosaire, la fête du Saint-Nom de Marie en particulier, ce sont des fêtes qui célèbrent le combat, qui célèbrent la victoire de Notre-Dame. La fête du Saint-Nom de Marie, c'est les victoires sur l'islam à Vienne. La fête de Notre-Dame du Rosaire, c'est la victoire de Notre-Dame à Les Pentes. Mais ce sont des fêtes qui célèbrent un combat, qui célèbrent vraiment cette force de la chrétienté, cette force de la grâce contre le péché. Cette force, si vous voulez, de ces deux cités dont parle si souvent saint Augustin, la cité de Dieu et la cité du diable, la cité de Satan, les existent. C'est une réalité. Cette réalité, on la voit également de nombreux saints. Songez simplement aux batailles célèbres du curé d'Ars, dont il reste des reliques à Ars. Le grappin l'a vraiment bien embêté. Il a mis le feu à son lit. C'était du réel. Le grappin était vraiment là pour le détourner, l'effrayer, le décourager. Le saint curé d'Ars n'en avait cure. Il a continué avec une force extraordinaire à servir Dieu. Pas de répio. On pourrait citer vraiment tous les saints, l'histoire de toute la sainteté. On ne voit qu'une chose, c'est vraiment un combat, mais un combat paisible. Un combat qui est fortifié par cette paix intérieure inadmissible. La paix intérieure, c'est cette certitude que Dieu est en nous. Pensez également à ce sujet, je pense que nous avions simplement évoqué le fait, pendant le carême, Sainte Perpétue, dans sa prison, avant d'être livrée aux bêtes, elle devait attendre puisqu'elle était enceinte et qu'on ne pouvait livrer aux bêtes une femme enceinte, elle devait attendre la naissance de son petit, et qui, dans les douleurs de l'enfantement, se moquait d'elle par les bourreaux. Si tu souffres maintenant, si tu cries, si tu pleures, si tu gémis, qu'est-ce que ce sera dans l'arène ? Et cette femme qui était aussi une femme de combat, de vivacité, d'âme, d'amour de notre Seigneur, de lui répondre à ce bourreau, « Ici, c'est moi qui souffre, dans l'arène, c'est lui, le Christ, qui souffrira en moi. » Alors je pense que cette petite introduction nous montre que vraiment le combat est une nécessité. Et on pourrait prendre également des comparaisons tirées de la vie naturelle. Monseigneur Lefebvre, à une époque, avait fait une série de conférences qui s'appelait, d'un titre peut-être un peu provocateur, « Le sida spirituel », maladie mortelle qui fait que nous n'avons plus de réaction contre le péché, ce qu'on voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui un peu partout le péché qui est commis par tout le monde, comme si tout était permis, comme si ce qui était entre guillemets naturel, du reste on va de plus en plus vers l'antinaturel, comme si tout cela était égal, d'autant pourvu qu'on ne tue personne et qu'on ne vole personne. Non, la vie simplement naturelle nous montre que l'organisme résiste à tout ce qu'il attaque. Vous faites une blessure, c'est évident qu'il y a un combat qui se passe pour éviter que les foyers infectieux se développent. Et lorsque des foyers infectieux se développent, l'organisme a toute une stratégie extraordinaire pour lutter contre ces foyers infectieux, que ce soit des virus, des bactéries. Tout l'organisme résiste, et résiste de manière admirable. C'est une métaphore de notre combat spirituel. Dès lors qu'il y a une blessure, dès lors qu'il y a une infection, s'il y a un agent infectieux, une maladie qui survient, le corps combat. S'il arrête de combattre par une maladie qui fait que toutes les réactions contre les agents infectieux sont éliminées, eh bien c'est la mort, à brève échéance. Eh bien dans la vie spirituelle, c'est vraiment la même réalité. Nous avons à combattre, nous avons vraiment à nous tourner de manière résolue vers notre Seigneur pour vivre de lui, et cette vie depuis notre baptême, depuis tout au moins le moment où nous commençons à avoir des actes dont nous sommes responsables, cela varie suivant les personnes, suivant les âmes, ça peut être un peu plus tôt, un peu plus tard, mais dès lors que nous posons des actes qui sont vraiment des actes responsables, dès ce moment-là, le combat commence. Et c'est un combat qui a un enjeu immense. L'enjeu de notre combat, de ce combat de la vie spirituelle, c'est rien moins que notre éternité. Et ça, il faut le peser. Nous n'avons qu'une éternité, on le voit bien, on parlait de la retraite ce matin. La retraite nous place devant cette grande réalité de notre vie, nous n'avons qu'une vie, une seule, il ne faut pas la gaspiller. Cette vie, elle est faite pour Dieu. Par conséquent, il faut combattre pour vivre de Dieu. Je vous encourage à ce sujet-là, peut-être à revenir sur certains passages de l'Ancien Testament. Regardez en particulier, c'est un passage admirable, Gédéon, qui doit combattre contre les ennemis du peuple de Dieu, les Amalécites. Les Amalécites qui sont réunis pour lutter contre le peuple choisi et le battre, bien sûr, le tailler en pièces. Ils étaient 120 000. Ça n'est pas une petite armée. Et Gédéon a à disposition 30 000 hommes. C'est déjà pas mal. 30 000 hommes. Mais Dieu dit... 30 000, non, ça ne va pas. Vous risqueriez de vous attribuer la victoire. Dieu nous connaît. On est toujours capable de dire, c'est moi. Alors Dieu dit à Gédéon, petite épreuve là, petit test, tu leur fais passer ce test, voilà, ceux qui ont un petit peu peur du combat, qui rentrent à la maison. Il en est resté 10 000. Deux tiers sont partis. Déjà impressionnant. 10 000 contre 120 000. C'est relativement disproportionné. Enfin, ça n'est plus relativement disproportionné, c'est complètement disproportionné. Mais Dieu dit à Gédéon, c'est pas impossible que vous vous attribuiez encore la victoire. Extraordinaire. Comment Dieu connaît vraiment le fond de nos pauvres âmes qui sont toujours avec cette racine de l'orgueil, c'est moi que je... Non. Alors Dieu dit, petite dernière épreuve, là vous allez courir un petit peu, les 10 000, et il dit à Gédéon, tu observeras, quand vous passerez le torrent, tu regardes ceux qui mettent les deux genoux à terre pour boire de l'eau, qui s'arrêtent tranquillement, qui prennent leur temps et qui puisent à pleine gorgée. Ceux-là, tu les laisses de côté, ils ne sont pas bons au combat. Sur les 10 000, enfin sur les 30 000 du départ, il en est resté 300. 300. 300 contre 120 000. C'est un défi extraordinaire. Nous voyons là quelque chose qui paraît mais complètement aberrant. Humainement parlant, militairement parlant, stratégiquement parlant, ça n'a aucun sens. Mais ça nous donne déjà une réponse pour notre combat spirituel. Stratégiquement parlant, le démon est beaucoup plus fort que nous. C'est un esprit pur, un ange, qui a depuis le début de l'humanité beaucoup d'expérience. Il en a fait tomber. Mais Dieu agit autrement. Revenons à Gédéon pour mieux le comprendre. 300 contre 120 000. C'est une folie. Et Gédéon va s'avancer de nuit contre les 120 000 Amalécites qui campaient un petit peu plus haut. Qu'est-ce qu'ils ont comme arme? On en pourrait dire éventuellement comme David, une bonne fronde, quelques bonnes pierres bien lissées par l'eau du torrent. Non, ils ont des cruches. Et dans les cruches, ils ont des bougies allumées. Mais un général, un colonel, un caporal dirait, mais enfin, ça n'a aucun sens. En face, ils ont des armures, ils ont des épées, ils ont des lances, ils ont des frondes, ils ont des archers. C'est un non-sens. Dieu agit autrement. Gédéon, de manière très prudente, va diviser ses 300 hommes. Trois corps d'attaque. 100, 100 et 100. Et ils vont partir de nuit. Alors il leur dit, voilà, signal, ce que vous allez faire, vous allez à un moment donné, on va donner un signal, et tous, on se rue à l'attaque, vous cassez les cruches, il y aura la lumière qui sort. C'est ce qu'ils vont faire. Et ce sera la panique totale chez les Amalécites. 120 000 hommes, des Amalécites, qui voient partout de la lumière. Du moins, en se réveillant, ils voient cette lumière descendre de tous les côtés, ils disent on est fini, c'est terminé, à l'attaque. Alors ils se lèvent, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'entretuer. Voilà comment le bon Dieu a fait que 300 hommes en viennent à bout de 120 000. Et le peu qui restait d'Amalécites ont été poursuivis par les 300 hommes de Gédéon, et ils ont combattu, ils ont vaincu. Extraordinaire! Mais ça paraît une folie. Notre combat spirituel paraît une gageure. Nous sommes là, nous savons qu'avant nous, des quantités sont tombées. Nous avons peut-être l'expérience de notre vie en nous disant « je suis déjà tombé combien de fois ? Est-ce que c'est la peine que je continue à combattre ?» Mais c'est évident. Et nous voulons le voir. Nous allons essayer justement de voir comment nous devons combattre, pourquoi nous devons combattre et quel est ce combat. Parce que ceux qui ont combattu nous ont précédés depuis bien longtemps. Il y en a un en particulier qui était un moine, le premier de ces moines, dont saint Athanase a écrit une vie splendide et d'une simplicité, mais d'une profondeur, d'une actualité très très belle. C'est saint Antoine du désert, qui s'était retiré du monde pour vivre uniquement de Dieu, qui avait subi les assauts répétés du démon. Je vais simplement vous prendre quelques passages de cette histoire de saint Athanase qui illustre tout à fait le combat spirituel. Il a été vraiment en but à la haine de Satan. Et comme on le disait tout à l'heure, ça paraît disproportionné. Nous semblons, nous, des petites fourmis face à cet immense Satan qui nous paraît déployer toutes les ruses de son esprit diabolique et si malin. Mais Dieu est là. Voici alors quelques passages de la vie de saint Antoine. Le démon, nous dit saint Athanase dans cette vie, le démon qui hait tout ce qui est digne de louange et qui voit toutes les bonnes actions des hommes, ne pouvant souffrir de voir une personne de cet âge se porter avec tant d'ardeur dans un tel dessein de vivre de Dieu, résolu d'user contre lui de tous les efforts qui seraient en son pouvoir. C'est pas mal. La première tentation dont il se servit pour le détourner de la vie solitaire en Dieu fut de lui mettre devant les yeux les biens qu'il avait quittés, le soin qu'il devait prendre de sa sœur, la noblesse de sa race, l'amour des richesses, le désir de la gloire, les diverses voluptés qui se rencontrent dans les délices et tous les autres plaisirs de la vie. Il lui représentait d'un côté les extrêmes difficultés et les travaux qui se rencontrent dans l'exercice de la vertu, la faiblesse de son corps, le long temps qui lui restait à vivre, Et enfin, pour tâcher de le détourner de la sainte résolution qu'il avait prise, il éleva dans son esprit comme une poussière et un nuage épais de diverses pensées. Vous voyez, il y a tout, on pourrait presque dire, il y a tout l'arsenal que Satan utilise contre nous. Tous les appâts qu'il utilise dans le monde. Et que nous connaissons bien que, justement, dans la retraite, les retraites de Saint Ignace, nous voyons de manière très précise, en particulier dans le discernement des esprits, où lorsqu'on regarde, selon l'Évangile, tout simplement, ce que nous avons à quitter ou ce à quoi nous sommes trop attachés, l'argent, les honneurs, l'orgueil, la richesse, tout ce qui est, sont ces biens simplement naturels. Alors que fit Saint Antoine ? Voici ce que Athanase continue. Satan, se trouvant trop faible pour ébranler un esprit aussi ferme que celui d'Antoine, qui à chaque fois opposait un non à toutes ses idées, à toutes ses tentations, et voyant qu'au lieu d'en venir à bout, il était vaincu par sa constance, renversé par la grandeur de sa foi, nous y viendrons tout à l'heure, et mis à terre par ses prières continuelles, alors, se confiant avec orgueil selon les paroles de l'Écriture aux armes de ses reins qui sont les premières embûches qu'il emploie contre les jeunes gens, il s'en servit pour l'attaquer, le troublant la nuit, le tourmentant le jour, de telle sorte que ceux qui se trouvaient présents voyaient le combat qui se passait entre eux. Le démon présentait à son esprit des pensées d'impureté, mais Antoine les repoussait par la prière. Le démon chatouillait ses sens, mais Antoine, rougissant de honte, comme s'il eût vu en cela de sa faute, fortifiait son corps par la foi, par l'oraison, par l'éveil. Le démon, se voyant ainsi surmonté, prit de minuit la figure d'une femme et en imita toutes les actions afin de le tromper. Antoine, élevant ses pensées vers Jésus-Christ et considérant quelle est la noblesse et l'excellence de l'âme qu'il nous a donnée, éteignit ses charbons ardents. Le démon lui remit encore davantage devant les yeux les douceurs de la volupté, mais Antoine, comme entrant en colère et en s'affligeant, se représenta les gênes éternelles dont les impurs sont menacés et les douleurs de ce remords qui, comme un ver insupportable, ronge pour jamais leur conscience. C'est très intéressant parce que nous avons ici à la fois, comme on le disait, l'arsenal de tous les moyens qu'utilise le démon, ces pensées qui souvent nous accablent alors qu'on ne les a même pas cherchées, et qui font parfois le trouble de nos âmes, et qui prouvent vraiment, qui montrent qu'il y a un combat qui se déroule dans notre âme, mais qui montrent comment nous avons à lutter, la foi, la prière, l'éveil, un peu de pénitence. Ce sont des moyens tout simples, en définitive, et que très souvent nous oublions, mais que nous voyons dans les grands saints. Saint Antoine, patriarche des moines, celui qui a vraiment premier eu cette vie solitaire de manière si extraordinaire. Il a utilisé de moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui et que nous n'avons qu'à puiser dans toute l'expérience de l'Église pour en vivre. Un petit peu plus loin, nous voyons même Antoine mépriser Satan. Quelque chose de très très beau cela. Nous y viendrons un petit peu dans la suite de la conférence parce que il y a une tentation aujourd'hui dans notre crise de l'Église, crise de la société, d'imaginer un pouvoir quasiment infini de Satan. Ça n'est pas du tout le cas. Il n'est que limité. Ne lui faisons pas l'honneur de penser qu'il ait plus de pouvoir qu'il n'en a. Voilà, disons, pour dresser comme une petite introduction à cet ensemble de considérations que nous allons faire. Nous avons vu dans ces grands saints, il y en aurait tellement que nous pourrions citer. Je vais citer encore beaucoup de passages, même de saint Antoine, qui sont très beaux. Mais je m'en tiendrai là simplement pour montrer vraiment que ce combat, il est de tous les temps. Nous aurions, et je vous encourage à regarder dans vos missels, par exemple le baptême, simplement le rituel du baptême. Que fait le prêtre ? Il multiplie les exorcismes. « Exi abeo immunde spiritus ». Allez, esprit impur, sors de cet enfant. Et il multiplie ensuite plusieurs reprises les exorcismes dans la langue latine, la langue de l'Église, afin que le démon qui tient cette âme par le péché originel sorte de l'enfant. C'est une pratique de l'Église pour le sacrement qui est la porte d'entrée dans l'Église et dans la vie surnaturelle et qui est donc capitale pour toute notre vie. Nous avons là dans la vie liturgique vraiment la preuve de ce combat qui est jusqu'à la fin. Il est à la porte de notre entrée dans l'Église, au baptême, et doit nous accompagner jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on appelle l'agonie. Agonie vient d'un mot grec qui signifie combat, le dernier combat. C'est très beau de voir que vraiment toute notre vie, elle est pour cela. Elle est vraiment un combat pour Dieu, pour vivre de Dieu. Alors, essayons de voir d'abord la réalité de ce combat. Il y a un livre que je vous encourage à lire, parce qu'il est très beau, mais il faut le lire avec les bonnes lunettes. Quand on parle du livre de l'Apocalypse, on a tout de suite devant les yeux un catastrophisme imminent. On arrive à la fin du monde, le ciel va nous tomber sur la tête, il va y avoir certainement, je ne sais pas, les Russes vont venir, peut-être les Chinois ou je ne sais pas encore qui. C'est possible, mais ça n'est pas la question. Toutes les périodes de l'Église, de grands saints se sont dit, mais voilà, la fin du monde arrive. Saint Léon le Grand, il dit, voilà, les hordes barbares descendent sur nous, c'est la fin du monde. Bon, il y a 14 siècles qui nous séparent de Saint Léon. La fin du monde n'est toujours pas là. Saint Paul, déjà, dans ses épîtres, exhorte ses fidèles à se préparer pour la venue. Dieu sait quand elle viendra. Mais ce que nous savons, nous, c'est que nous avons à combattre maintenant. Et que ce combat, il a commencé de manière assez impressionnante. Alors venons à ce grand combat que nous voyons dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Passage merveilleux. C'est le passage que nous avons du reste dans la messe de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie au 15 août. C'est du reste très intéressant de voir comment ces passages sont liés à Notre-Dame. Comment Notre-Dame, qui est la reine des armées du ciel, est liée à cette victoire sur Satan. Il parut dans le ciel un grand signe, signum manium apparuit in cielo. C'est splendide. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Pensez bien ici, il ne s'agit pas de Notre-Dame lors de la nativité. Vous savez très bien que Notre-Dame, au moment de la nativité, n'a absolument pas connu du tout les douleurs de l'enfantement. L'enfantement a été miraculeux puisque Notre-Dame est restée vierge dans toute sa vie. Ici, il s'agit de Notre-Dame mère de l'Église, mère des élus. Et Notre-Dame, comme nous la voyons par exemple à la Salette, qui pleure de voir ce qui se passe, qui, pour nous montrer cette douleur qu'elle a eue au pied de la croix, nous fait comprendre par ses apparitions, en particulier à la Salette, à Fatima également, combien elle souffre de nous enfanter à la grâce. Ça n'est pas l'enfantement de notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, c'est nous-mêmes. Qu'apparaît-il ensuite? C'est le troisième verset. Un autre signe parut dans le ciel. Un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses têtes, 7 diadèmes. De sa queue, il entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Puis le dragon se dressa contre la femme, qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Elle mit au jour un enfant mâle qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et auprès de son trône. Je passe ensuite, verset 7. Et il y eut un combat, prélium en latin, prélium manium. Un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattaient. Mais ils ne purent vaincre. Et leur place même ne se trouva plus dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, le séducteur de toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est splendide. C'est le livre de l'Apocalypse qui nous montre ce premier combat. Quand on parle vraiment de combat spirituel, il faut voir qu'il a ce début dans la révolte de Satan, la révolte angélique. Prélium manium. Mais regardez bien le spectacle, si l'on peut dire. Vous avez Saint Michel, les anges apostats. L'Écriture nous dit bien, de sa queue il entraîna le tiers des étoiles du ciel. Ces étoiles du ciel, les pères disent que ce sont effectivement les anges apostats. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'anges qui sont tombés avec Lucifer. Mais nous avons la figure splendide de Saint Michel Archange, Quis ut Deus, qui est comme Dieu? C'est le cri et le nom, ce que signifie Michel. Qui est comme Dieu? C'est la gloire, c'est l'honneur, c'est la joie, c'est la fierté de cet esprit créé par Dieu, d'avoir un Dieu créateur comme ce Dieu trinitaire. Le quis ut Deus qui retentit dans le ciel, dans ce silence dont nous avons parlé ce matin, ce quis ut Deus, c'est vraiment tout l'être de Saint Michel Archange qui vibre, si l'on peut dire, d'honneur et d'adoration devant Dieu. Et c'est là qu'il nous faut déjà voir la grande marque de ceux qui combattent contre Satan et de ceux qui combattent contre Dieu, qui combattent pour Dieu, contre Satan. C'est l'honneur de Dieu, Dieu premier servi. C'est ce qui doit guider vraiment toute notre vie. Saint Michel Archange est défini par cette action. Il s'élève contre tout ce qui veut souiller l'honneur de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui le définit, c'est son nom, le nom que nous donne l'Écriture. C'est merveilleux. Par conséquent, nous avons là le type même de celui qui combat, qui mène ce combat spirituel. L'âme chrétienne doit avoir au plus profond de son âme d'abord la certitude qu'il y a un combat, que ce combat, qu'il faut le mener, qu'il faut le connaître, qu'il faut connaître notre ennemi, nous allons y arriver, mais que nous avons tout pour vaincre. Nolite timere, ne craignez pas, petit troupeau, j'ai vaincu le monde. Nous le voyons dans l'histoire de l'Église, c'est extraordinaire. Parfois, nous disons que nous avons un petit peu peur devant tout cet arsenal, mais regardons l'histoire de la sainteté. Saint Paul, renversé de cheval, persécuteur, le grand apôtre. Merveilleux. Thaïs, nous en avions peut-être parlé, je ne sais plus, mais Thaïs, qui était une courtisane, incroyable, qui a fait tomber quantité d'âmes à l'époque justement de Saint Antoine du désert, Thaïs va être convertie par Saint Antoine. Elle va passer sa vie ensuite, recluse, à ne dire qu'une parole, Kyrie eleison. Et voilà en quoi consistait son combat spirituel. Seigneur, ayez pitié de moi. Seigneur, Dieu premier servi, Seigneur, ayez pitié de moi. C'était que son combat spirituel, la seule chose qu'elle connaissait de Dieu. Elle se tournait vers Dieu pour lui dire, Seigneur, ayez pitié de moi. Et un jour, les moines ont vu une lumière fulgurante partir vers le ciel. Ils se sont précipités vers la cellule de Saint Antoine en pensant que leur père était parti vers le ciel. Saint Antoine était bien vivant. Non, c'était Thaïs, de courtisane, en quelques années, je crois que c'était lors de 2 ou 3 ans, une grande sainte. Merveilleux! Et nous avons cela dans toute l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, c'est l'histoire de la sainteté. Soit l'histoire de l'élection particulière que Dieu fait de certaines personnes, comme une petite Thérèse qui, dès l'âge de 3 ans, n'a rien refusé à Dieu, ou alors de la sainteté recouvrée. Pensez à Marie-Madeleine, qui était possédée par 7 démons, et qui est devenue la pénitente, qui était au pied de la croix. Mais quelle espérance pour nous! Ça nous montre que le combat spirituel, pour ceux qui prennent les bonnes armes, ce combat a une issue certaine. Nolite timere, n'ayez pas peur. Ce combat, pour peu que nous prenions et que nous empoignions ces armes, ce combat a une issue certaine. Et du reste, pour avoir un avant-goût de cette issue, il nous faut revenir au livre de l'Apocalypse. Il est splendide, ce livre. Tout au début, je reviens au chapitre, cette fois-ci non pas 12, mais le chapitre 3 de l'Apocalypse, lorsqu'il est question des différentes églises, le chapitre 3, au verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Rendez-vous compte. Nous avons un combat à mener et l'issue de ce combat, pour celui qui vaincra parce qu'il a vaincu avec les armes de Dieu, cette issue est extraordinaire. Jésus-Christ consigne dans le livre de l'Apocalypse, « Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Le verset 12, « Celui qui vaincra, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu est le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, je l'inscrirai en lui. Splendide. Donc, un peu plus loin, dans un autre passage, c'est peut-être même le chapitre 2, c'est le chapitre 2, ce doit être le chapitre 2, oui. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai une pierre blanche et sur cette pierre était inscrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Cette manne cachée, c'est bien sûr la vision béatifique. C'est Dieu vivant dans cette âme qui a reçu le mérite de son combat. Donc, ce combat qui se déroule dans notre vie, ce combat qui est une réalité de toute notre vie, il a une issue. Et c'est une issue splendide. Il nous faut toujours voir dans un combat le prix de la victoire. On dit toujours, c'est notre intention, l'intention qui est première, le but de notre vie, et là aussi les exercices de Saint Ignace sont un merveilleux exemple de cela, c'est de revoir le but de notre vie, c'est le ciel, l'éternité. Mais attention, il faut le gagner. Donc il y a entre deux un temps pendant lequel il faut mériter ce ciel, et c'est justement cela, ce combat. L'enjeu est de taille, l'enjeu est magnifique. C'est la vie divine en nous. Donc nous sommes vraiment faits pour vivre de Dieu. Mais vous pourriez me dire, finalement, pourquoi ce combat? Dieu aurait très bien pu nous donner la grâce, comme à une petite Thérèse ou à d'autres grands saints, de vaincre déjà le démon depuis l'enfance, pratiquement. Ce sont les exceptions. Dieu se choisit les pierres comme il veut. C'est un premier grand principe dans le combat spirituel. Il ne faut pas nous tromper. Et là, je vous encourage à faire, entre guillemets, attention, quand vous lisez des biographies de saints, je vous encourage à lire ces biographies qui sont splendides, mais on voit souvent que les saints étaient justement déjà dès leur berceau pratiquement coiffés de l'auréole et qu'ils n'avaient presque plus rien à faire dans leur vie si ce n'est de se laisser faire par le bon Dieu. Mais nous oublions souvent le quotidien d'un saint. J'espère ne pas vous apprendre quelque chose de nouveau, mais les saints devaient aussi se lever. Ça commençait par là, pour eux aussi. Ils devaient se lever, même si c'était difficile. Ils devaient combattre les tentations, même si elles étaient pénibles. Ils devaient faire pénitence. Pensez au saint curé d'Ars. Je pense qu'il n'avait pas, en tout cas ses papilles gustatives, un goût prononcé pour les pommes de terre moisies. Mais par pénitence, il les avait prises. Il se cuisait les pommes de terre le lundi, les mangeait jusqu'au dimanche suivant. Extraordinaire. Mais ce n'était pas depuis le berceau. Ils ont commencé à lutter. Ils ont commencé à combattre. Ils se sont fortifiés. Il y a eu des manquements. Il y a eu des péchés. Il y a eu des fautes. Il y a eu des faiblesses. Mais c'est là qu'on voit ce qu'est la sainteté. La sainteté, c'est la miséricorde de Dieu qui triomphe de notre faiblesse. C'est la force de Dieu qui triomphe de notre faiblesse. Et tout le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Apocalypse, elle est ce tableau extraordinaire qui nous dépeint le ciel, la Jérusalem céleste, et qui nous montre que pour ceux qui combattent, même si ça a été des pécheurs, même s'ils sont peut-être tombés gravement dans leur vie, fait des péchés mortels, mais qui se sont relevés parce qu'ils avaient cet esprit combatif, ces âmes glorifient Dieu, non pas directement par leur péché, mais parce que ce péché a été pardonné, parce que ce péché a été racheté par l'agneau immolé. Et c'est le triomphe de la miséricorde divine. C'est une pierre de noblesse qui est ajoutée à l'édifice dont parle l'Écriture. Ce grand temple vivant, cette grande église qui est le corps mystique du Christ, et cette pierre qui est rajoutée, c'est justement le triomphe de la force de Dieu en nous. Nous y viendrons tout à l'heure puisque ce sont là nos grandes armes. Mais restons à cette nécessité du combat. On posait la question, mais pourquoi devons-nous combattre alors qu'il y en a d'autres pour lesquels c'était peut-être plus facile? Eh bien, la voie commune des enfants d'Ève, c'est justement de prouver à travers l'épreuve l'amour de Dieu. C'est de prouver, de donner nos preuves, de faire nos preuves de l'amour de Dieu. C'est un passage très beau dans le livre de Tobie, dans l'Ancien Testament, où on voit ce Tobie qui était un personnage extraordinaire. Ils étaient en exil, loin de Jérusalem, et quelle pénitence pouvait être pour eux. Et ce Tobie, contrairement à beaucoup de gens de sa race, du peuple choisi, gardait au fond de son cœur l'amour de la loi. Et en particulier, vous voyez, tous ces Hébreux qui avaient été assassinés, dont on lui disait, il y en a un qui a été tué, son corps gît à tel endroit, il voulait leur donner sépulture. Or, le roi qui les tenait en captivité avait interdit sous peine de mort la sépulture des Juifs. Tobie voulait rester fidèle à son Dieu. Et de nuit, il allait chercher ses cadavres. Ou de jour, quand c'était possible, il les cachait dans sa maison. Et de nuit, il les enterrait. Action admirable. Sa femme le lui reprochait, lui disait « Mais attention, tu as déjà été averti combien de fois? Tu sais le prix que tu risques de payer, c'est la mort. » Et puis un jour, nous voyons ce Tobie, ce juste d'entre les justes, qui, fatigué par les veilles continuelles qu'il devait faire justement pour rendre ce service aux morts, qui se couche au pied de sa maison et, chose incroyable, une fiente d'hirondelle tombe sur ses yeux. Il perd la vue. Il dit, mais c'est pas possible. Si c'est ça la récompense d'un juste, il dit, mais quand même, qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, ça, c'est une très mauvaise question. Ne nous posons jamais cette question. Ne disons jamais, qu'est-ce que fait Dieu? Inversons la question et regardons tout ce que Dieu fait pour nous. En même temps qu'il donne l'épreuve, mais la grâce surabonde. Et l'histoire du livre de Tobie nous le montre. Dieu a permis cette épreuve. La femme va lui dire, tu vois à quoi servaient tes bonnes actions, maintenant tu es aveugle, à quoi t'ont servi toutes ces bonnes actions? Elle blasphème contre Dieu et Tobie de lui redire, non, je continue de servir Dieu. Eh bien, qu'est-ce que nous avons dans le livre de Tobie? Nous avons justement inscrit en lettres d'or, il était nécessaire que la tentation t'éprouvât. Pourquoi? Pour que tu donnes les preuves de ton amour de Dieu. Et à la fin du livre de Tobie, vous connaissez certainement cette histoire, je ne veux pas prolonger. À la fin du livre de Tobie, c'est la révélation de la présence de l'archange Raphaël. C'est Raphaël qui avait conduit le fils de Tobie, qui l'avait ramené, qui l'avait sauvé de tous les dangers. Et c'est Raphaël qui révèle qu'il est un des sept qui se tiennent devant la face de Dieu. Récompense admirable pour les actions de Tobie, et sa droiture, et sa justice. Justice au sens fort de l'Ancien Testament, sa sainteté. Merveille. Alors nous voyons là une âme vraiment combative, mais il était nécessaire que la tentation l'éprouve afin qu'il prouve à travers le combat, et Dieu sait si c'était un combat, sa femme, ses amis, tous lui disaient, c'est insensé ce que tu fais. À quoi t'ont servi toutes tes bonnes actions? Et Tobie gardait le cap, sans changer ni à droite ni à gauche, tout droit, une droiture exemplaire. C'est très très beau de voir cela. D'autre part, il nous faut toujours nous souvenir, et ça va dans le sens de ce que nous avons dit tout à l'heure, n'oublions jamais, dans les épreuves, dans le combat, dans les difficultés, parfois nous semblons peut-être terrassés dans ce combat spirituel, découragés, c'est normal. Mais Dieu ne permet jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il ne peut pas le faire. Il y a un passage de l'Écriture qui nous le dit en toutes lettres. Dieu ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est une certitude absolue divine. Il faut la garder vraiment en lettre de feu dans notre cœur, parce qu'elle est une consolation dans l'épreuve, mais merveilleuse. Nous ne sommes pas tentés au-delà de notre force. Souvenez-vous de ce que l'on dit de Sainte Thérèse d'Avila, qui un jour, vraiment devant les épreuves, devant les difficultés, elle a connu les sécheresses de ces difficultés, et on dit qu'elle, un peu lasse, comme les saints le font et se tourne vers Dieu, et dit « J'aimerais changer de croix. Elle aimerait être soulagée de la croix qu'elle porte. C'est trop lourd, j'arrive plus. Je suis fatigué. Seigneur, donnez-moi une croix un tout petit peu plus petite. » Et Dieu, vous connaissez certainement ce passage, Dieu qui lui présente quantité de croix. Immense, longue, large, lourde, pesante, garnie de clous. Elle les écartait soigneusement les unes après les autres. Et là, petite, une croix taillée pour elle, une petite, juste celle qu'il lui fallait. Elle dit, mais Seigneur, est-ce que je peux prendre celle-là? Et Dieu de lui répondre, mais c'est déjà celle que tu portes. Et oui, ne nous trompons pas, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il proportionne les difficultés à notre vie. On l'oublie trop souvent. Lisez l'Évangile. Vous voyez dans l'Évangile notre Seigneur qui permet quantité de choses, qui voit, vous avez tous ces malades, tous ces boiteux, tous ces infirmes, tous ces misérables qui sont là. Lorsque le Sacré-Cœur vient devant toutes ces personnes, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un pécheur devant lui. Ça peut même être Judas. Nous voyons pendant 3 ans vivre avec le Christ. Eh bien, le Christ, en même temps qu'il donne une parole, il ne fait pas comme nous pouvons parler, nous pouvons prêcher à quelqu'un, l'exhorter, l'encourager. Mais Dieu agit dans l'âme. Le combat spirituel, c'est ça, il ne faut pas l'oublier, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Le combat spirituel, ce n'est pas nous devant l'adversaire, c'est Dieu en nous. Le démon cherche à nous troubler pour nous faire croire que nous sommes tout seuls et que nous ne pouvons pas gagner. Or, partout dans l'Évangile, si nous regardons vraiment l'Évangile, nous voyons le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, qui est-il? Il est celui qui agit à l'intérieur de l'âme. Le meilleur exemple, c'est le bon larron. Que s'est-il passé pour le bon larron? Il y a eu un combat intérieur chez le bon larron. Au départ, il blasphémait. Au départ, il luttait contre Dieu. Il était, comme l'autre larron, un blasphémateur. Et il entend cette parole, « Seigneur, pardonnez-leur. » Il est bouleversé. Combat intérieur. Il dit, c'est pas possible. Et ce combat intérieur va l'amener petit à petit à reconnaître que celui qui parle là n'est pas un homme moderne, c'est pas un criminel, c'est pas possible. Il ne peut pas pardonner à ses bourreaux. Il ne peut pas dire, pardonnez-leur. Comme ça, c'est impossible. Et il va se tourner vers lui. Et ce combat spirituel de cet homme, comment se déroule-t-il? Est-ce que c'est lui-même livré à ses forces? Absolument pas. Le Christ sur la croix est en train de mériter les grâces de rédemption. En même temps qu'il a dit « miséricorde », il agit dans cette âme. Il pénètre cette âme de sa miséricorde, il lui donne son sang. Il n'appartient qu'à nous de le recevoir. Et c'est là la réalité du combat spirituel. Voilà pourquoi nous devons mener ce combat. Le combat est nécessaire. Il est normal dans la vie spirituelle. Il ne faut pas s'en étonner, ça fait partie. Ce combat, ce peut être des tentations, ce peut être des difficultés, ce peut être une maladie, un accident, des problèmes de famille. Il y a toutes les myriades de possibilités. Mais ce combat est nécessaire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons tout dans les mains pour mener ce combat. Et c'est extraordinaire de voir la générosité de Dieu, la libéralité de Dieu qui nous donne vraiment les trésors de sa divinité pour que nous arrivions à vivre de lui. Alors ce qu'il nous faut faire justement quand nous regardons ce trésor que Dieu nous donne, lorsque nous nous rendons compte que dans ce combat, le premier principe c'est de nous dire « je ne suis pas seul, Dieu est avec nous » et du reste l'Écriture nous le dit « si Dieu est avec nous, qui est contre nous ?» On pourrait presque dire, c'est une répétition de la parole de l'archange Michael, « Quis ut Deus ?» Si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Une merveilleuse confession de cette puissance de Dieu, premier principe dans la vie spirituelle, dans le combat spirituel. Ensuite, justement, sachant cela, sachant que nous sommes faits et que tout notre organisme spirituel est fait pour vivre profondément de Dieu, pour combattre pour la vertu, pour que tout notre organisme se développe dans la croissance de ce que saint Paul appelle le Christ parfait, pour le Christ, que nous acquérions cet âge adulte du Christ, le Christ total, l'insertion parfaite dans ce grand corps mystique, le corps qui est l'Église. Eh bien, pour cela, il faut connaître aussi, bien sûr, notre ennemi. Et je le disais tout à l'heure, je pense que c'est important de revenir un petit peu sur ce passage. Parce que trop souvent, nous entendons des personnes qui craignent Satan de manière incroyable. On le voit partout. Un enfant tombe malade, c'est le diable. Il y a un petit malheur qui se passe, c'est le diable. C'est possible, mais attention! Ne voyons pas le diable partout. Dans le combat que nous avons amené, on l'a déjà dit, le premier principe de ce combat, c'est que ce n'est pas d'abord un combat contre Satan. Ce n'est pas la première question qu'on pose au baptême. La première question du baptême, c'est que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Pourquoi la foi? Pour la vie éternelle. Si vous voulez la vie éternelle, accomplissez les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ce sont les vertus théologales.
première chose de notre vie spirituelle. Premier principe. Donc, premier principe de la vie spirituelle, c'est Dieu. Un combat pour Dieu, un combat pour vivre pleinement de Dieu. Ensuite, c'est de nous dire, attention, il y a un ennemi. Mais il ne faut pas non plus l'imaginer plus fort qu'il ne l'est. Et ça, c'est le deuxième principe qui est capital. Satan ne peut pas tout. Il n'est pas tout puissant, ne soyons pas des manichéens en imaginant Dieu principe du bien et Satan principe du mal. Satan est une créature qui plus est totalement liée, non seulement liée, mais Dieu ne permet son action, les tentations, je dis bien ne permet, qu'en vue d'un plus grand bien. Si Dieu permet la tentation, c'est pour la faire tourner en bien. C'est extraordinaire. Et là, en même temps que je vous donne ce deuxième principe qu'il faut vraiment graver dans notre âme, le démon n'est pas tout puissant, nous n'avons rien à craindre de lui. Le même principe qui développe celui-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, pauvres humains que nous sommes, pauvres pécheurs que nous sommes, avec toute notre faiblesse, nous avons une puissance extraordinaire. Cette puissance, elle tient en trois lettres. Non. C'est le mot « non ». C'est de dire « non » à Satan. C'est tout simple. Une tentation qui se présente, non. Une autre tentation, pensée, difficulté, non. Dans la mesure où nous ne donnons pas le petit doigt à Satan, dans la mesure où nous ne discutons pas avec la tentation, dans la mesure où dans ce combat spirituel, nous ne commençons pas à discuter avec l'ennemi, mais nous triomphons immédiatement. C'est un pouvoir extraordinaire. Nous sommes capables, alors que nous sommes des créatures inférieures aux anges, nous sommes capables de le terrasser par un simple non, par une simple soumission à la volonté divine. Cette soumission, elle s'appelle l'humilité. Nous savons que nous sommes faibles. Nous savons que nous ne sommes rien. Et parce que nous ne sommes rien, nous faisons la volonté de Dieu qui nous a dit qu'il est le Tout-Puissant, qui nous a indiqué qu'il est celui qui est notre force. Et c'est ça qui fait la force de tous les saints. Prenez les petits-enfants de Fatima, prenez le petit... le petit François. Prenez ces sacrifices qu'ils ont faits extraordinaires par amour pour Dieu et pour les pécheurs. C'est parce qu'ils étaient pénétrés de cette certitude. Dieu est celui qui, en eux, leur donne cette force. C'est une force inébranlable. Tous les martyrs ont vécu de cette force qui tient en trois lettres, non. Et c'est une consolation extraordinaire. Parce que ce pouvoir que nous avons contre les anges apostats, il est un pouvoir au quotidien. Satan nous tente au quotidien. Et au quotidien, nous sommes capables de triompher par un simple acte de volonté ferme, mais définitif. C'est extraordinaire. Et plus nous le répétons, et plus nous affûtons ces armes, plus nous renforçons notre volonté, tout le combat spirituel se déroule, non pas un petit peu comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse, cet immense combat qui se déroule dans la sphère des esprits célestes. Non, ici-bas sur la terre, c'est beaucoup plus prosaïque. C'est au jour le jour. C'est tous les jours que ça se passe. Et tous les jours, ce sont des petits actes. Ce ne sont pas nécessairement des actes devant lesquels nous devons décider d'une apostasie ou de la mort. Non, ce sont des petites choses, des petits péchés, des petites mauvaises habitudes, des petites mauvaises herbes qu'il faut arracher. Mais si nous arrachons cela, ces petits actes, ces non répétés, ces actes d'acceptation de la volonté de Dieu, mais avec une force et un amour de Dieu répété, ces actes fortifient notre âme. Ces actes rendent notre âme presque inébranlable devant la tentation. Parce que petit à petit, elle va vraiment grandir dans l'amour de Dieu. Et plus elle grandit dans l'amour de Dieu, et plus elle se fortifie contre le mal. C'est clair. Plus la santé, et au point de vue spirituel, la sainteté croît dans une âme ou dans un organisme, et plus il est fort contre tout ce qui veut attaquer cette santé. C'est splendide. Ce que Dieu nous a donné est extraordinaire.